Bonjour. Alors, ne vous étonnez surtout pas si je veux reprendre un petit peu ce que Philippe avait dit, c'est intentionnel. On a bien voulu pour avoir une certaine cohérence dans notre culte de ce matin. Alors, je vous propose donc d'ouvrir votre Bible et qu'on va lire ensemble un petit deux versets dans Philippiens. Et comme l'a dit Philippe, à la fin, je reprendrai un petit peu sur Jean chapitre 15 et les premiers versets. Donc, Philippiens chapitre 2, on va lire pour l'instant que deux versets. Donc, l'apôtre Paul, qui écrit aux Philippiens et qui leur dit, Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, probablement, ceux qui ont ouvert leur Bible et qui ont une autre traduction que la seconde 1910, vous avez bien remarqué que certains mots, certaines phrases sont traduites autrement. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir au cours de notre méditation et voir avec vous pourquoi certains mots ont été traduits autrement. Par contre, le but, le sujet de notre méditation ce matin, c'est cette phrase de l'apôtre Paul. Dieu produit en nous, le vouloir et le faire. Et Paul ajoute un peu plus loin, selon son bon plaisir. Alors, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans des détails théologiques très difficiles à raisonner. Le but principal, à la fin de notre méditation, c'est d'être pratique, très pratique dans la vie de tous les jours. Donc mon souhait, notre souhait, c'est que à la fin de cette méditation, vous pouvez avoir quelque chose de pratique pour la vie de tous les jours. Alors, Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, on va se poser quelques questions. La première, c'est que de quel vouloir l'apôtre Paul parle-t-il? De quel vouloir? Puis la deuxième question qu'on va se poser, comment Dieu produit le vouloir en nous? C'est beau de dire. Dieu produit le vouloir, mais comment Dieu va le produire? Quel est ce vouloir et comment Dieu va le produire? La troisième question, est-ce que le vouloir est-il suffisant pour atteindre ce qu'on veut? Et puis la quatrième question, comment Dieu va produire en nous le vouloir et le faire? En d'autres termes, pouvoir réaliser ce vouloir que Dieu a mis ou a produit en nous. Et la dernière question, qui va être la conclusion de, ou le résumé de la méditation, c'est est-ce que ceci veut dire que si il n'y a pas en moi le vouloir de réaliser quelque chose, ou si j'ai le vouloir, mais je n'ai pas pu atteindre le vouloir, réaliser ce vouloir en moi, cet objectif que je me suis, que je me suis fixé de réaliser, est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'a pas voulu? Ou Dieu ne l'a pas permis? Ah, vous voyez un petit peu cette question qui est importante? En fait, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on aurait vu le cheminement des quatre premières questions, on va avoir tous les éléments nécessaires et suffisants pour répondre facilement à cette cinquième question. Donc, commençons par le début. N'importe quel prof de théologie, quand vous êtes à la fac, ou n'importe quel pasteur qui vous dit, quand on prend un passage, il ne faut pas le prendre isolé. Pour pouvoir bien le comprendre, il faut le mettre dans son contexte. Si l'apôtre Paul a écrit « Dieu produit en nous le vouloir et le faire », c'est pour une raison donnée qui était dans le contexte de sa lettre aux Philippiens. Donc, il est utile de commencer par voir un petit peu le contexte, même si ça nous prend 2 à 3 minutes. Le contexte, il est comment? Vous vous rappelez bien, le 1er juillet, on a apporté une méditation sur la première moitié du premier chapitre de Philippiens, où on a vu que l'apôtre Paul leur écrit en disant qu'il rend grâce à Dieu de tout le souvenir qu'il garde d'eux et qu'il ne cesse dans ses prières de manifester la joie au sujet de la part qu'ils ont pris à l'Évangile. Et on a vu que la part qu'ils ont pris en Évangile, quelle était sa signification? On a vu que les Philippiens, non seulement ils ont admis l'Évangile dans leur cœur, qu'ils ont transformé leur vie, mais la parole a été faite après, suivie par des actes. Et quand l'apôtre Paul est parti pour continuer sa mission d'évangélisation, ils l'ont soutenu financièrement et ils ont envoyé même une personne de chez eux, Épaphrodite, pour qu'il aille travailler et que l'apôtre Paul puisse, et donner de l'argent à l'apôtre Paul pour subvenir à ses besoins, pour que l'apôtre Paul puisse se consacrer uniquement à l'Évangile. Et puis, un petit peu après, il dit, celui qui a commencé, il leur dit, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite au jour de son avènement, au jour de Jésus-Christ. Et l'apôtre va leur dire, je suis sûr que celui qui a commencé en vous cette œuvre, elle va être parfaite au jour de Jésus-Christ. Et il va leur dire qu'il va prier pour que leur amour aille en grandissant et qu'ils continuent d'être remplis des fruits de la justice. On l'a détaillé, qu'est-ce que cela veut dire? Leur amour aille en grandissant et qu'ils soient remplis des fruits de la justice. Il ne s'arrête pas là, même si nous, on s'est arrêté là le 1er juillet. L'apôtre Paul a continué sa discussion, son écriture, sa lettre aux Philippiens, et il leur dit qu'ils se conduisent, qu'ils souhaitent d'eux, qu'ils se conduisent d'une manière digne de l'Évangile. Et pour leur expliquer c'était quoi une manière digne de l'Évangile, et pour leur faire le lien avec leur amour qui naît en grandissant, il a parlé de l'amour fraternel entre eux, et il a dit que ce qu'ils souhaitent, il parlait après de Jésus-Christ, comment il s'est humilié par amour pour eux, il a quitté sa gloire de Dieu qui s'est humilié en prenant un corps homme pour les sauver ainsi de suite. Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé de lui-même, pour arriver à dire, ainsi donc, le verset qu'on vient de lire, le verset 12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Excusez-moi, je n'ai pas fini ici. Et avant d'aller plus loin, je souhaite quand même revenir sur ce mot « travailler avec, travailler à votre salut avec crainte et tremblement ». Si vous lisez, si vous avez d'autres versions que second, même si le mot est exact tel que second l'a traduit, D'autres versions le traduisent autrement. Comme par exemple, second 21, il dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Il n'a pas dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », il a dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Même si le mot qui était dit était « tremblement ». En fait, le contexte de Philippiens 1 et Philippiens chapitre 2 n'est pas que les Philippiens travaillent à acquérir leur salut. Puisque la manière dont l'apôtre Paul parle d'eux, c'était des chrétiens convertis qui ont déjà l'évangile en eux et qui sont en train de le mettre en œuvre. Mais il leur dit de poursuivre, d'être dignes de l'évangile, d'être dignes de leur vocation. C'est pour le contexte veut que, au lieu de dire travaillez à votre salut, on peut dire mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et le second dit avec respect, avec un profond respect. Pourquoi on tremble? On tremble quand on a peur. Et pourquoi on a peur? On a peur pour différentes raisons. Eh bien, des fois, on a peur de ne pas être à la hauteur. Parfois, quand on monte prêcher, vous voyez les gens un peu trembler. Parce que, est-ce que je vais pouvoir bien dire? Est-ce que je vais pouvoir bien parler? Est-ce que? Donc, il est en train de leur dire, ayez la crainte, soyez dignes. C'était juste une petite parenthèse si vous n'avez pas la traduction second et vous avez trouvé autre chose au lieu de tremblement. Continuons notre méditation et passons maintenant au sujet. La première question, c'était de quel vouloir l'apôtre Paul parle-t-il? Ben, si vous avez suivi l'introduction et si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit il y a 3 mois, le 1er juillet, c'est un peu clair. C'est que leur amour aille en grandissant, qu'ils continuent d'être remplis de fruits de justice, qu'ils se conduisent d'une manière digne de l'Évangile et qu'ils mettent en œuvre, en pratique, leur salut, cette bonne nouvelle, ce qu'ils ont reçu du Christ. C'était ceci, le vouloir dont l'apôtre Paul en a parlé dans les 2 premiers chapitres. En français courant, si on veut le traduire en un seul mot, d'avoir une vie de chrétienne conforme à la volonté de Dieu. Être digne de l'Évangile. Avoir une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu. C'est de cela le vouloir dont l'apôtre Paul parlait. Maintenant, passons à la deuxième question. On a vu, qui produit en nous ce vouloir? Et l'apôtre Paul est clair. Il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. On a vu le mot produire. Je fais pas le grec, hein, mais je lis les commentaires, les exégètes des gens qui connaissent le grec. Et le mot produire tel qu'il est, dans ce verset, c'est exactement le mot « produire ». En grec, il a donné le mot « énergie ». Énergie. Et parfois, bien des fois, je lis ma Bible en d'autres langues. Par exemple, l'arabe, pour différentes raisons, surtout à cause de la signification de chaque mot. Et là, quand je prends l'évangile en arabe, je ne trouve pas le mot « produire » tel qu'il est en arabe. On trouve un autre mot qui est « travail. Dieu travaille en vous. Or, je vous ai dit que ce mot a donné le mot énergie. Ben, n'importe qui a fait un peu de physique ou de maths, ça, c'est que le travail produit, a besoin de l'énergie. L'énergie produit un travail ou le travail produit de l'énergie. Pour pouvoir amener ça de là à là, je dépense de l'énergie. Elle est faible, mais je dépense quand même. Une énergie. Donc, il y a un lien entre travail et énergie. Quand on dit Dieu produit, on a l'impression de quoi? On a l'impression de la production d'une voiture. Elle se fait, par exemple, dans un atelier. dans un centre de production, et puis à la fin, elle est prête, on n'a qu'à la prendre et à l'utiliser. Tandis que quand on dit Dieu travaille en nous, Dieu travaille en vous, c'est comme si Dieu nous apprend à produire quelque chose. La voiture, elle ne va pas être produite toute seule et je vais aller la chercher à la fin. Dieu va m'apprendre à la produire, à travailler, à pouvoir l'avoir. Et c'est pour cela que vous trouvez un autre mot dans d'autres traductions, comme par exemple la Bible du Semeur qui dit « Dieu agit en vous pour produire ». Et d'autres traductions encore, « Dieu agit parmi vous pour susciter la connaissance de sa volonté ». Donc, « Dieu produit en nous » ne veut pas dire, comme si je finis à la fin, je vais acheter une voiture toute faite. Dieu produit en nous dans le sens que Dieu va travailler en nous, agit en nous, afin que on puisse avoir ce vouloir. Qu'on puisse avoir ce vouloir. Et c'est conforme à ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre lui-même, en Corinthiens, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. En fait, Dieu produit. En d'autres termes, j'insiste pour la dernière fois, Dieu travaille en nous. Dieu agit en nous pour susciter quelque chose. Oui, c'est bien de le savoir, mais en fin de compte, comment? Et alors, comment je vais pouvoir? Comment Dieu va travailler en moi afin que je puisse connaître la volonté pour faire quelque chose, pour atteindre un objectif? Et là, on passe à la troisième question. Comment Dieu produit en nous ce vouloir. Quand je dis produit, pensez à travailler en nous, agit en nous, travaille en nous, même si j'utilise moi le mot produit. Hein? Travaille en nous. Alors, il suffit, avant de dire comment, on va lire trois versets bibliques et en citer un quatrième, qui vont nous mettre dans l'idée, cette manière dont Dieu va travailler en nous, agir en nous pour produire la connaissance de sa volonté. La première, elle est en Romains. L'apôtre Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Discerner la volonté de Dieu. Et le psalmiste, vous connaissez par cœur, je suis sûr, même si vous ne connaissez pas la référence par cœur, vous connaissez tous ce verset, ce passage des psaumes. « Enseigne-moi, Éternel, la voie des statuts, de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre ta foi. Et le troisième que vous connaissez aussi par cœur, je suis sûr, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et le quatrième verset, je ne l'ai pas écrit parce que vous le connaissez tous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger. Il se trouve où ce verset? Où? De Timothée 3:16. Pour ceux qui oublient, une méthode de mnémotechnique, vous connaissez tous car Dieu a tant aimé le monde. C'est où? Jean 3:16. Tout le monde sait par cœur. Mais là, c'est facile. Vous mettez Timothée 3:16 et c'est à la deuxième. Vous cherchez dans la première, vous ne la trouverez pas. Vous irez dans le deuxième. si vous allez le trouver, une méthode mnémotechnique. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, en d'autres termes, comment Dieu va mettre, comment Dieu va travailler, comment Dieu va produire cette volonté? Par la lecture de la parole, par l'enseignement. L'Éternel les utilise donc pour parler à notre cœur, pour nous convaincre, on vient de le voir, pour nous révéler sa volonté pour nous, par l'enseignement, par l'écriture. L'écriture, elle nous sanctifie, elle nous transforme, elle est la puissance qui nous régénère. C'est une épée, c'est un miroir à deux tranchants. C'est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Notre frère Philippe l'a cité, il vous a montré où est-ce qu'elle se situe dans son cercle vicieux. Mais on ne peut pas en faire l'économie de la lecture de ce cercle vertueux. Je suis pris dans mes pensées, excusez-moi. Mais c'est pour voir si vous suivez, en fait. Hein, c'est juste pour vérifier que vous êtes en train de me suivre. Hein. Ça va, vous êtes là encore. De ce cercle vertueux. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai perdu le fil de mes idées. Non, il faut que je me rattrape. Donc, elle est là. Elle est là comme un miroir pour voir. Mais en fait, il ne suffit pas quand même qu'on se voit. Hein? Ce n'est pas suffisant, comme dit l'apôtre Jacques. C'est que l'Écriture est là, elle nous regarde qui on est comme un miroir, mais il ne faut pas connaître ceux qui après se détournent et ils oublient ce qu'ils ont vu. Ça, elle n'a plus d'effet à ce moment-là. Donc, la connaissance qui nous convainc, qui va nous convaincre. Donc, après avoir amené le croyant à être mécontent de ce qu'il est, après avoir amené le croyant à être mécontent de ce qu'il est, l'Éternel le fait aspirer à la sainteté, à être à l'image de Christ. Mais attention, le mot « vouloir » désigne un choix réfléchi et non un désir passager, fantaisiste, comme ça. Le mot « vouloir » désire un acte réfléchi. Et c'est pour cela que, normalement, les prédicateurs, on n'aime pas qu'on nous dise « Oh, le culte était bon ». C'est pas ça qui nous intéresse. Si après, une fois sorti, on oublie. Il est plus intéressant que vous ne dites pas « Ah, le culte était bon aujourd'hui ». Ne nous dire plutôt « Ça m'a permis de réfléchir, je vais changer ma vie ». Ce que le Seigneur a travaillé en moi pendant la méditation m'a permis de vouloir être transformé, changé et prendre l'engagement de le faire et pas uniquement une fois sorti, j'oublie et je passe à autre chose. Dieu travaille en nous le vouloir. Continuons notre réflexion et posons-nous maintenant la question. Le vouloir est-il suffisant? Hein? Vous connaissez la phrase, un dicton qui dit l'enfer est? Et? J'entends rien. Voilà. L'enfer est pavé des gens de bonnes intentions. Le dicton n'était pas comme ça. C'est vers le 17e, 18e siècle qu'il est devenu comme ça. Parce que les rues de Paris ont été pavées. Mais il date de au moins 500 ans plus avant, du 12e siècle. Et le dicton disait « L'enfer est plein de bonne volonté ». L'enfer est plein de bonne volonté. Quand on a pavé les routes de Paris, c'est qu'elle a été transformée pour dire « L'enfer est pavé des gens de bonne intention ». Et c'était dit, en fait, pour les guerres de religion, ainsi de suite, parce que les gens, avec leur bonne volonté, ils tuaient les autres. Et celui qui l'a dit, Saint Bernard de Clairvaux, il disait ça pour dire, c'est pas parce qu'on a une bonne volonté, on commet des mauvaises choses. Il voulait parler des guerres de religion, de ce qui tuait au nom de Dieu, ainsi de suite. C'était ça le but essentiel. Avec le temps, ça a changé. Et maintenant, on n'y pense plus à cette signification. On pense à autre chose que la volonté ne suffit pas. C'est bon d'avoir une bonne volonté ou une bonne intention, mais si on ne l'accomplit pas, si on ne réalise pas, ça ne nous sert à rien. Hein? C'est comme ça. Mais l'apôtre Paul l'a bien dit, on sait bien que le vouloir est une condition nécessaire. Hein, pour ceux qui aiment bien les mathématiques, conditions nécessaires et suffisantes, conditions nécessaires et non suffisantes. Le vouloir est une condition nécessaire pour accomplir un acte, mais elle n'est pas suffisante. L'apôtre Paul le bien dit, j'ai le vouloir, mais non le pouvoir d'accomplir quelque chose. Un peu plus loin, il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a délivré de mon corps. Mais n'empêche, il était conscient. J'ai le vouloir, mais non le pouvoir d'accomplir. Donc, le simple vouloir n'est pas suffisant pour atteindre un objectif. Alors, comment Dieu met en nous le faire? En d'autres termes, le pouvoir de faire, le pouvoir de réaliser quelque chose. Alors, dans sa lettre aux Philippiens, vers le verset 4, un petit peu vers le chapitre 4, un petit peu comme conclusion, l'apôtre Paul va un petit peu résumer tout ce qu'il vient de leur dire et il va leur dire qu'il a appris à être rassasié ou à avoir faim. Il a appris à vivre dans la disette ou dans l'abondance, ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est le verset 13. Il va dire la chose suivante. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Là aussi, c'est une phrase. Qu'est-ce qu'elle veut dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je pense, pour qu'on puisse le comprendre, de vous donner un exemple. Un exemple, c'est beaucoup plus facile, biblique, hein? Je ne vais pas le prendre de la vie de chaque jour. Un exemple biblique, c'est beaucoup plus facile à se rappeler et qui va nous permettre de comprendre la totalité de ce verset. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et on comprend mieux cette signification « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Exemple que j'ai déjà cité et que je vais le redire une deuxième fois, même on peut le redire 10 fois, l'essentiel c'est qu'on se rappelle pour nous aider dans la vie de chaque jour. C'est Esther. Esther, c'est le meilleur exemple de cette phrase. Esther, c'est le meilleur exemple. Vous savez que le peuple juif a été déporté. Et il y avait Mardoché qui était là-bas, du temps d'Assuréus, roi des Perses. Il y a eu quelque chose. Esther est devenue la reine Assuréus. Mais le roi Assuréus avait un premier ministre, on peut l'appeler vizir, premier ministre, qui avait une dent contre les Juifs et contre Mardoché surtout. Il a voulu tuer Mardoché et tuer tous les Juifs. Et il a fait écrire au roi un édit qui, tel jour, telle date, tel jour, tous les Juifs peuvent être dépossédés, tués, ainsi de suite. Il y avait la désolation parmi tous les Juifs. Et Mardoché, il a fait venir Esther, la reine donc, l'épouse d'Assuréus, et il lui a dit, tu dois aller parler au roi et lui dire ceci, pour défendre ton peuple. Mais elle lui a dit, mais je ne peux pas y aller, c'est interdit. Si le roi ne m'appelle pas, je n'ai pas le droit de venir et de parler. Et je pourrais même être puni de mort si je viens devant le roi pour lui parler. Donc, elle a débiné un peu, elle n'en voulait pas. Et Mardoché lui a dit, « Qui sait si Dieu ne t'a pas mis à cette place pour que, un jour, tu sois un outil en sa main pour sauver le peuple juif ?» Et il lui a dit, « Même si tu ne le fais pas, Dieu suscitera une autre personne pour le faire. » Donc, ça va travailler en elle ce qu'il lui a dit. Mardoché, ça travaille, comme la Bible, quand on lit la parole de Dieu, nous travaille. Et à ce moment-là, elle a pris la décision d'agir. Elle ne savait pas comment agir, ni comment elle va pouvoir y aller. Mais elle a eu en elle le vouloir et elle a décidé d'y aller. C'est très important ce que je dis. Elle ne savait pas comment, mais elle a décidé de le faire. Par contre, elle a dit à Mardoché, « Moi, Je vais jeûner pendant 3 jours, ainsi que mes servantes, et dis, toi et le peuple en entier qui est à Suse, de jeûner et de prier. Elle ne savait pas. Et puis après, elle a mis ses beaux habits, elle s'est promenée dans la cour. Dans la fenêtre, il y avait le roi, il l'a vue. Et il l'a fait venir. Elle n'est pas allée d'elle-même. Il l'a fait venir. Dieu va agir au fur et à mesure. Et elle ne savait pas quoi lui dire. Elle lui a dit, viens ce soir chez moi pour te faire un festin, toi et Aman, le premier ministre qui était. Elle ne savait pas encore comment elle va le dire. Et ce soir, viens le lendemain. Et le soir, le jour même, le roi avait une insomnie. Il n'arrivait pas à dormir. Quand vous avez des insomnies, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé, vous faites quoi? Vous mangez, vous? Boire? Eh bien, le roi Assuérus, ce n'était pas ça. Il a fait venir le livre des chroniques. Ça veut dire l'histoire des Perses. Et il a voulu le lire. C'est rabarbatif, hein? C'est pas du tout intéressant. Et qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu que Mardochée avait sauvé le roi Assuérus lui-même d'un complot contre lui. Ah, un juif qui m'a fait ça. Et là, il s'est rendu compte qu'on ne l'a même pas récompensé. Et bon, il a fait récompenser, ainsi de suite. Et ça a ouvert le cœur d'Assuérus. Dieu a travaillé par l'insomnie, par la lecture, par ce qui s'est passé. Et le lendemain, quand il y a eu le festin, c'était facile à la reine de dire à Assuérus ce que Aman a fait. Son cœur était déjà préparé. Elle ne savait pas comment faire, mais Dieu a agi. Dieu a fait travailler. Dieu a produit le vouloir et le pouvoir de faire. Alors, on peut lire « Je puis tout par celui qui me fortifie », on peut en prendre plusieurs versets bibliques, mais je pense qu'un exemple est beaucoup plus parlant pour nous, pour savoir comment Dieu agit, comment Dieu produit en nous. L'Éternel intervient quand il faut, quand il faut, quand il faut, comme il faut, c'est la base de notre foi. Et c'est bien sûr ce qu'on lit dans Hébreu. Je vous ai donné la partie pratique, un exemple. La partie théorique, elle est en Hébreu. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable. Dieu vous rend capable. Ça, c'est la partie théorique. L'exemple que je vous ai donné, c'était pour la partie pratique, où la théorie rejoint la pratique dans la vie d'un chrétien. Continuons notre réflexion, on n'est pas loin de finir, et là on arrive à la dernière question. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas le vouloir ou le pouvoir, c'est Dieu qui ne l'a pas mis en nous? Non? Non? Ça vous traverse pas l'esprit? Moi si, pas vous? Si, ça peut nous traverser l'esprit. Ben, si la Bible dit c'est Dieu qui met le pouvoir et le vouloir et le pouvoir, si je n'y arrive pas ou si je n'ai pas la volonté, c'est pas ma faute, Dieu ne l'a pas permis. Non? On peut penser de telle manière. Mais, d'après tout ce qu'on vient de dire, d'où vient le pouvoir? D'où vient le vouloir? Vous vous rappelez le cercle qui n'est pas vicieux? Qui est, voilà, de Philippe, il commence par quoi? Il commence par ce qu'on a vu, la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme, j'arrive pas à lire d'ici, je suis obligé de lire là. Croire à l'assurance de l'aide du Seigneur. Exemple d'Esther, se lancer. Se lancer. Elle n'a pas attendu de pouvoir le faire. Elle a compris le vouloir et elle se lance de le faire. Souvent, on attend d'être capable de. Mais si on attend d'être capable pour réaliser quelque chose, on peut attendre longtemps. On peut attendre longtemps. Elle s'est lancée. Faire son devoir. Exemple d'Esther, le jeûne. Ça, elle pouvait le faire. Elle ne pouvait pas changer le cœur d'Assuérus, mais elle pouvait jeûner, elle pouvait prier. Et ça, elle l'a fait. S'exercer. Hein? Excusez-moi, je ne sais plus où est-ce que je suis. S'exercer. Timothée, vous connaissez, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile dans le monde présent et dans le monde à venir. S'exercer, travailler, ce qu'on vient de lire en Philippiens, faire l'effort. L'apôtre Pierre dit la même chose que Paul. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel à la charité. Faites vos efforts. Ça ne travaillez, ça ne tombera pas du ciel. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Elles ne vous laisseront pas oisifs. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Et là, il rejoint le verset 12 que je viens de vous citer. Travaillez à votre salut. C'est pas travailler pour être sauvé, mais mettez en œuvre votre salut. L'apôtre Pierre rejoint l'apôtre Paul dans cette manière de réfléchir. Mettez en œuvre. Exercez-vous, affermissez votre vocation, votre élection, travaillez-la, qu'elle puisse produire du fruit, d'être digne de l'Évangile. Et puis, enfin, la deuxième, l'humilité de l'homme. Car même dans les moments les plus culminants de notre vie, de nos victoires, n'oublions pas que c'est Dieu qui doit être glorifié, car tout est grâce de sa part. L'apôtre Paul, vous vous rappelez en Philippiens, il y a 3 mois, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne remercie pas les Philippiens de ce qu'ils ont fait pour lui. C'est pas ce qu'il a dit. Il remerciait Dieu d'avoir mis les Philippiens, dans le cœur des Philippiens, ce qu'il y a à faire. Et on en a dit qu'il ne faut pas remercier les gens de ce qu'ils accomplissent dans l'Église. On remercie Dieu de ce qu'il a mis des gens, de ce qu'il a travaillé en eux pour qu'ils puissent accomplir ce qu'ils ont accompli dans l'Église. Et Paul est toujours comme ça dans ses lettres. Et il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Rappelons-nous toujours l'humilité quand on accomplit quelque chose. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie, par Jésus-Christ. Pas par notre propre moyen. Et j'arrive à la conclusion maintenant. Et là, je reprends Jean chapitre 15 pour finir. Et là, Jésus lui-même n'a pas dit des choses différentes quand il a enseigné ses disciples. Il a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Je ne vais pas recommencer ce que Philippe nous a dit. On ne peut atteindre le vouloir. On ne peut avoir le vouloir. On ne peut atteindre le vouloir par le pouvoir de le faire que si on demeure attaché à Christ. Que si on demeure attaché à lui. Donc, frères et sœurs, laissons Dieu agir en nous pour sa volonté, par la lecture de la parole, par l'enseignement, par tout ce qu'il nous donne, par tout ce qu'il nous dit, et agissons en lui faisant confiance pour le faire. Agissons, n'attendons pas, pour lui faire confiance. Il va mettre en nous ce pouvoir si on le laisse faire. Et je vous ai laissé parce que l'apôtre Paul ne reste pas. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il ajoute une petite phrase. À elle seule mérite une méditation. Ne vous inquiétez pas, on arrête là. On ne repart pas vers une autre méditation. C'est son bon plaisir. C'est le bon plaisir de Dieu. C'est le bon plaisir de Christ qu'on soit associé à son œuvre. Qu'on croit, qu'on soit digne de l'Évangile et qu'on accomplisse des bonnes œuvres pour sa gloire. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ces paroles qu'on a pu méditer ensemble, qu'on a pu se rappeler ce que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens. Nous voulons, Seigneur, les faire nôtres aujourd'hui. Nous voulons que cette parole qu'on a pu méditer nous transforme, nous change, qu'elle s'enracine dans notre cœur, qu'elle porte du fruit. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que vraiment elle nous change, elle nous transforme. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Amen. Je laisse la place à Philippe pour la suite.